Claude Askolovitch, on parle d'un homme qui parle des femmes.
Emmanuel Todd a l'œil coquin et qui se déprécie d'une telle manière, je n'ai que des combats perdus, dit-il à Libération, que l'on devine sa certitude d'avoir raison contre l'époque. Il a envoyé Todd son dernier livre à l'Express avec cette dédicace, en espérant que cela ne signe pas la fin de ma vie sociale. Car Todd, donc, dans Où en sont-elles ? Vient annuler le féminisme contemporain. Mais sa vie sociale va bien, la preuve, on le retrouve en entretien dans Libération, dans Marianne, dans Le Figaro et dans Le Point, cover en prime. Il est aussi traité dans l'Express et maltraité dans l'Obs qui conteste son sérieux. Mais on a pris l'habitude de considérer l'anthropologue et historien Todd depuis que par ses statistiques sur les structures familiales, il a prédit la fin de l'Union soviétique et accompagné l'élection de Jacques Chirac. Nous, médias, apprécions qu'il dissipe l'ennui. Cette fois, Todd explique pourquoi, selon lui, le patriarcat est une illusion, comme le mot « genre ». Et il réduit l'évolution du féminisme à un désarroi, le mal-être des représentantes du sexe féminin qui auraient déjà pris le pouvoir dans la société et dans l'idéologie et qui ne sauraient que faire de ce pouvoir. Alors, pour compenser l'absence de sens de leur vie, elles se livreraient à des combats fantasmatiques. Todd balaye ainsi le best-seller de l'écrivaine Mona Chollet sur les sorcières. Comment des femmes modernes peuvent-elles s'identifier au sort de 40 000 femmes massacrées dans le monde germanique au XVIe, XVIIe siècle ? Il y a là une forme de désorientation, dit-il au Figaro, interrogé par la journaliste essayiste antiféministe Eugénie Bastier, qui est amicale, comme l'est dans Marianne, la patronne Natacha Polony, ou dans Le Point, l'éditorialiste Laetitia Strauch-Bonnard. Todd est ainsi appuyé par des intellectuels qui s'opposent au progressisme féministe de la vague MeToo. Et l'on retrouve alors un classique de cet homme qui sait se placer aux fractures de son temps. Ici, la dispute autour du progressisme qui oppose celles et ceux qui veulent traquer les injustices d'autrefois et de maintenant à ceux et celles qui pensent qu'à trop vouloir guérir, on propage la division. Todd le fait à sa manière. Il mobilise aussi bien le bac 1968 où les filles dépassèrent les garçons que la division du travail entre hommes et femmes au temps des chasseurs-cueilleurs préhistoriques auxquels nous ressemblerions. Alors les hommes chassaient pour la collectivité, les femmes cueillaient pour la famille. Et ainsi Todd corrèle la montée du féminisme qu'il dit petit bourgeois à l'individualisme, à l'éparpillement des sociétés, à l'affaiblissement des classes populaires. Voilà, vous pouvez causer. Dans Marianne, vous allez lire des luttes sociales et des peurs aussi dans les classes populaires. Ce ne sont que des histoires de femmes, mais dont le destin échapperait au combat féministe. Car quand on est caissière dans une supérette et qu'un client vous caresse les mains, on se fait juste engueuler par le patron si on quitte son poste. L'injustice, c'est une question sociale. Mais en même temps, Marianne concède que le harcèlement sexuel est mieux signalé dans les magasins depuis le mouvement MeToo. C'est la CGT qui le dit. Et c'est la noblesse de Marianne de contredire ainsi ses convictions.
On parle aussi d'un visage ce matin.
Infiniment doux, celui d'un homme, Gaspard Ulliel, comédien et ange de son vivant, et plus encore depuis sa mort hier à 37 ans dans un accident de ski. Et dans tout ce qu'on lit, le dossier et la une de Libération et la une de la Provence sont les plus belles images. Ulliel a l'œil moqueur, ironique et la cigarette au bec dans Libération qui titre « Gaspard dans la nuit ». Son regard est perdu dans la Provence qu'il appelle une étoile filante. Ulliel partage la une de la Provence avec un autre homme aux yeux perdus et rauques, au visage mangé de barbe et de cheveux dont le pull informe dit la survie. Le journal accompagne une légion de fantômes happés par la rue, des SDF qui disent les chutes, les débrouilles, la solitude, la notion du temps qui part et aussi le mental d'acier que possèdent ceux qui survivent. Au une du Progrès et de l'hebdomadaire Le Pays, contemplez la douceur du visage d'un prêtre, Louis Ribes, qui de son vivant était le Picasso des églises. Il embellissait les maisons de Dieu de fresques splendides, mais on l'a découvert pédophile bien après sa mort en 1994. Et dans des villages entre Loire et Rhône, on se demande combien de victimes a fait cet abbé qu'on pensait simplement tripoteur. On va décrocher ses œuvres, un visage peut tromper.
Et on parle enfin d'adolescents.
Car dans le Jura, le Progrès titre sur un accident de la route. Hier, quatre jeunes gens, dont trois lycéens, sont morts noyés quand leur voiture a dérapé sur une route verglacée et est tombée dans le lac de Chalin. Dans le Dauphiné libéré, je lis qu'en Haute-Savoie, un garçon de 14 ans est mort quand la glace a cédé sous lui au marais de Poisy. J'essaye d'imaginer le visage de ces mômes partis le même jour qu'un acteur. Dans Paris Match, regardez des photos dantesques d'une femme minuscule, un point perdu dans une avalanche d'eau. Elle se nomme Justine Dupont, surnommée Water Woman dans le monde du surf. Le 8 janvier à Nazaré au Portugal, sa planche s'est bloquée quand elle chevauchait une vague de 20 mètres de haut. Elle est partie dans la lessiveuse. Elle a béni les séances d'apnée de l'entraînement et a réussi à entendre son nom, Justine, que hurlait son accompagnateur venu la secourir en jet ski juste avant que les vagues ne la jettent sur des rochers. Elle repart à Hawaï ce week-end. Notre espèce est un entêtement. Dans L'Équipe, lisez comment l'Australien Nick Kyrgios, qui était un gosse asthmatique, joufflu et abonné au KFC, a inventé, joueur pro, un tennis de la lenteur qui l'oppose à la star russe Medvedev. J'aurais dû m'en inspirer. Dans La Gazette, journal de Thiers, nous attend heureux Yves Guyot, 68 ans, qui est un parmi la dizaine de gnomonistes français. Le gnomoniste est celui qui fabrique des cadrans solaires. Dans L'Obs sans fin, l'écrivain Haruki Murakami nous dit comment il a pu écrire sur son père, traumatisé des guerres du Japon, et décrit ses journées d'écriture, regardant par sa fenêtre des montagnes aux couleurs de l'automne. J'écoute un vieux disque, la suite française interprétée par André Prévin, Je bois du thé noir. Heureux sont les passionnés.
Merci Claude pour cette revue de presse. France Inter.